Radio Libellule.
Les ondes positives.
Musicalement vôtre, la petite histoire des grandes œuvres racontée par les caprices de Mariam. Aujourd'hui, Wolfgang Amadeus Mozart, une vie au service de la liberté.
Il y a les siècles, des numéros épinglés sur une frise à remonter le temps. Dans cet univers de souvenirs, il y a nous, le commun des mortels, dont les vies mises bout à bout constituent ce que les historiens appellent « mémoire collective ». Et puis, il y a les autres, perles rares qui brillent plus fort, comètes qui passent plus vite. Wolfgang Amadeus Mozart fait partie de ce club très fermé de destins hors du commun. Aujourd'hui, faisons une pause, un ralenti de quelques minutes sur sa vie pour capturer un peu de sa lumière, pour mieux la comprendre et pour mieux l'aimer. Alors fermez les yeux et faites un vœu, c'est Mozart qui vous parle.
Thank you.
Larghetto du quintet avec clarinette en La majeur, Köchel 581. 1756-1791. Ces deux dates si proches nous interrogent autant qu'elles nous fascinent. À l'échelle de nos 5 siècles d'histoire moderne, la vie de Mozart ne fut pas plus longue que le passage d'une étoile filante dans un ciel d'été. Un instantané, trop bref pour le saisir, mais si intense qu'on s'en souvient longtemps. On peut pleurer sans doute à raison la disparition brutale et si précoce d'un génie dont la vie et l'œuvre nous touchent si profondément. Mais faut-il s'en étonner? Mozart a tout fait très tôt, il était précoce. On peut se demander ce que serait devenu sa musique s'il avait connu le 19e siècle, le romantisme et la locomotive à vapeur. Mais est-ce bien utile? Au fond, n'est-ce pas précisément le drame qui nous bouleverse? N'est-ce pas le mystère qui nous fascine? Est-ce la réponse qui compte ou la question qu'on se pose? Car à trop parler de la mort de Mozart, on en oublierait presque sa vie. Une vie trépidante, faite de voyages et de rencontres, de rires, de théâtre, de libération et de musique. À Salzbourg, en Autriche, non loin de l'actuelle frontière avec l'Allemagne, Mozart a grandi comme le petit prodige chéri des dames autrichiennes, lui qui pouvait jouer à 4 ans des fugues de Bach les yeux bandés. Dans la petite maison de la rue des Meuniers, Getreidegasse, la musique résonnait dans toutes les pièces. Papa jouait du clavecin, la grande sœur du violon et le petit Wolfgang jonglaient de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante en toute insouciance. C'est ainsi, entre deux leçons de musique, que Mozart commença sa folle journée sur Terre.
Thank you.
Ouverture des Noces de Figaro, opéra en 4 actes, Köchel 492. Une ouverture à l'opéra, c'est ce moment de musique qui précède souvent le lever de rideau. Imaginez un peu, la salle est pleine, prête à vivre pendant 2 heures, voire plus, un moment d'une rare intensité. Un drame qui va se nouer puis se dénouer, des émotions qui vont traverser chaque spectateur, le tout sublimé par une débauche de musique et d'effets spéciaux qui feront de cette soirée une expérience inoubliable. Vos yeux sont grands ouverts, vos oreilles avec, tous vos sens sont en éveil et un frisson parcourt la salle entière. Les coups retentissent, le silence s'installe. Mozart entre dans la fosse d'orchestre sous les applaudissements. Salue rapidement, puis se tourne vers ses musiciens. Il esquisse un sourire, lève une main pour obtenir le silence et de l'autre, il lance la musique. C'est parti pour l'ouverture. Ce condensé d'opéra, l'équivalent au cinéma du générique de début qui donne le ton de la soirée, annonce le caractère de la pièce et donne à votre esprit quelques indices sur ce qu'il s'apprête à ressentir. Ici, dans les Noces de Figaro, la soirée sera évidemment trépidante, joyeuse et pleine de rebondissements. La folle journée. Nul doute que le sous-titre de la pièce de Beaumarchais est plu à Mozart. Une folle journée pendant laquelle Figaro et Suzanne vont faire des pieds et des mains pour échapper à la tutelle du comte Almaviva, pour vivre leur amour en toute liberté. Une farce à l'italienne, truffée de quiproquos et de gags qui frise la provocation et joue avec la limite de ce qui est acceptable à l'époque. Farceuse et provocante, cette œuvre est à l'image de son compositeur. Quelques années plus tôt, Mozart a quitté Salzbourg contre l'avis de son père pour tenter sa chance à la capitale. Il s'est libéré aussi, pour ne pas dire rebellé, contre l'autorité de son employeur, un certain Coloredo, archevêque de Salzbourg, qu'il avait en public traité de voyou et de crétin. Un visionnaire, cet archevêque. La folle journée que Mozart s'apprête à faire vivre au public, il en a reçu la commande par l'empereur Joseph II de Habsbourg. Elle se joue dans le théâtre impérial, devant tout ce que Vienne compte de ducs et de duchesses, de comtes et de comtesses, bref, devant le gratin de l'Empire. Nul doute que le sujet de la pièce de Beaumarchais a fait grincer des dents à la cour. Et il y a de quoi ? L'histoire d'un couple de serviteurs qui se rebelle contre l'autorité d'un aristocrate qui lui donne une bonne leçon et triomphe de l'oppression par la ruse. Ça vous rappelle quelque chose ? Un indice. On est en 1786. Oui, le mariage de Figaro est une œuvre révolutionnaire, censurée en France. En faire un opéra subventionné par une des familles les plus aristocratiques d'Europe, c'est donc sacrément culotté.
Thank you.
Adagio du concerto pour clarinette en La majeur, Köchel 622. Nous avons quitté Mozart au sommet de sa gloire viennoise avec les Noces de Figaro. De ses années folles, il tirera deux opéras supplémentaires, deux chefs-d'œuvre, Don Giovanni et Così fan tutte. Nous le retrouvons quelques années plus tard, dans la solitude d'un appartement mal chauffé, composant à la lueur des bougies cet hymne à la douceur que vous venez d'entendre. L'aristocratie viennoise l'a lâché, et Mozart n'est plus à la mode. À trop les taquiner, il a fini par se mettre à dos les membres de la cour impériale qui se tournent maintenant vers les compositeurs italiens, laissant un Mozart aux abois, criblé de têtes, incapable de subvenir aux besoins de sa femme et de son fils. Beaucoup de compositeurs, des romantiques comme Chopin ou Schumann, auraient sorti de cette situation tragique une musique tragique pour faire écho à un destin fatal qui s'abattrait sur eux, pleurant toutes les larmes de leur corps dans des élans lyriques déchirants. Mais Mozart n'est pas un romantique. Au contraire, sa nature profondément optimiste le pousse à se réfugier pudiquement dans ce concerto pour clarinette, écrit pour son ami Anton Stadler. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve.
Ein Mädchen oder Heiden wünscht Papageno-Sieg. Oh, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein, im Elysium sein, im Elysium sein. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno-Sieg. Oh, so ein sanftes Deuten der Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf einer mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu tot. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Helf einer mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno-Sieg. Oh, so ein sanftes Täuschen wär Seligkeit für mich, wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. So bin ich schon wieder gesund, so bin ich schon wieder gesund, schon wieder gesund, schon wieder gesund.
Ein Mädchen oder Weibchen, air de Papageno, extrait de la flûte enchantée. Mozart est sauvé par la musique, oui, mais aussi par ses amis, au premier rang desquels Emmanuel Schikaneder. Oui, c'est son air que vous venez d'entendre, chanté par Dietrich Fischer-Dieskau, l'air de Papageno dans la célèbre flûte enchantée. Un air simple qui se retient facilement et que tout le monde peut chanter, comme une chanson populaire si vous voyez ce que je veux dire. Saltimbanque, comédien, chanteur, compositeur, impresario, homme à tout faire d'une troupe de théâtre amateur, Emmanuel Schikaneder sera le dernier rayon de soleil, la dernière lumière dans la vie de Mozart. Et quelle lumière ! Un souffle de liberté a gagné l'Europe en ce printemps 1791. En quête d'un nouvel élan et brûlant de se libérer encore une fois de la dépendance à l'empereur, Mozart trouve en Schikaneder un camarade fidèle, un admirateur et un collègue de travail idéal. Les deux s'entendent comme larrons en foire et les récits de leur soirée dans les tavernes des faubourgs de Vienne empêchent encore les voisins de dormir. Mais, quand il s'agit de se mettre au travail, la folie d'Emmanuel et le génie de Wolfgang font des étincelles. Étincelles dont naîtra cette flûte enchantée, un conte fantastique où se croisent un vieux sage barbu, une reine de la nuit qui chante très aiguë quand elle est fâchée, notre Papageno, le dresseur d'oiseaux qui se prend pour un perroquet, et une flûte magique qui met fin aux guerres en mettant de la musique dans le cœur des hommes. On est très loin des histoires de comtesses à perruque et de servantes facétieuses. Mozart mettra dans cette flûte enchantée tout ce qu'il s'interdisait jusque-là, ne se laissant dicter aucune forme, aucun code et aucune norme musicale. Il veut faire de sa dernière œuvre de scène un manifeste à la gloire des Lumières, de ses camarades francs-maçons et de sa liberté retrouvée. Constance, l'amour de sa vie qui l'a accompagné dans ses derniers instants, raconte que dans les derniers jours, incapable de se lever de son lit pour aller diriger l'orchestre, il réglait sa montre avec précision pour ne pas rater l'heure de la représentation. Quand 8 heures sonnaient, il se redressait, esquissait un sourire, levait une main pour obtenir le silence, et de l'autre, il lançait la musique. Sa chambre devenait une salle de théâtre, et il se revoyait triomphant devant l'empereur et sa cour, comme à ses heures de gloire.
Thank you.
C'était Musicalement Vôtre, un podcast des Caprices de Marianne. Au montage, Guillaume Audin. À l'écriture et à la narration, Olivier Delaunay.